Elle a disparu depuis jeudi matin à Vivonne, dans la Vienne, où se trouve Agathe, 28 ans. Ça fait plus de 72 heures que les gendarmes autour de Poitiers et de Vivonne sont tous mobilisés pour tenter de la retrouver, Dominique. C'est son père qui a donné l'alerte.
Oui.
Quelle piste de travail et de quels éléments disposent les enquêteurs? C'est toutes les questions qu'on se pose ensemble, Dominique.
Oui, absolument. Avec une enquête qui va évoluer, bien sûr, on va moins rechercher Agathe sur le terrain. On va plus rechercher, c'est la police judiciaire maintenant qui va travailler, qui elle était, sa vie, est-ce qu'elle a pu faire une mauvaise rencontre, voilà. Tout ça, c'est l'évolution d'une enquête en 72 heures.
Avant de vous présenter nos invités, je vous propose de retrouver Pauline Sarafi, qui est à Vivonne avec nous, l'une de nos envoyées spéciales de BFM TV. Pauline, on aimerait comprendre ce matin, les recherches se poursuivent, toujours aucune trace d'Agathe. Quel est le dispositif sur place? Est-ce que c'est plus réduit? Est-ce que c'est plus concentré?
Oui, le dispositif, il est restreint. On ne parle plus que d'une quarantaine de gendarmes. Ils étaient une cinquantaine déjà hier soir, loin des 110 gendarmes mobilisés ces deux derniers jours. Parmi ce dispositif-là, ces deux derniers jours, il y avait également une soixantaine d'habitants qui avaient tenu à se joindre aux recherches pour épauler les gendarmes, eux qui connaissaient très bien les zones qui étaient fouillées. La zone de recherche, d'ailleurs, elle aussi a été restreinte hier, plus de 100 km² ont été passés au peigne fin. Aujourd'hui, ces zones de recherche, elles se ressentent vers des zones vraiment ciblées. Les gendarmes parlent notamment de fouiller ces cours d'eau, les multiples rivières qui jonchent les villages alentours. Pour ça, eh bien, les gendarmes partent désormais par petites équipes. On ne verra plus de grands ratissages comme on a pu en voir hier. Et d'ailleurs, nous avons rencontré un des coureurs qui a participé aux recherches hier. Je vous propose de l'écouter. C'était au micro de Dorine Jarnias.
Il était 9h et puis je suis parti avec la gendarmerie et puis un groupe de marcheurs. On a sillonné une quinzaine de kilomètres au nord de Vivonne pour malheureusement rien trouver. On a mis à peu près 3 heures. On a fouillé tout, on est revenu par le clan, on a tout fouillé et puis en fait, pour rien. Très touché, oui, et puis on se met à la place de la famille, c'est surtout ça. Je connais pas Agathe, mais je pense que ça doit être. C'est infernal comme attente. Même dans les chemins, c'est très. Les chemins qui sont très très isolés, très escarpés. On a toujours un peu l'appréhension de rencontrer quelqu'un.
Voilà, lui faisait partie donc de la soixantaine d'habitants qui ont participé aux recherches. Il y avait également le club de footing auquel appartient Agathe. Et ce matin, tous ceux avec qui nous avons discuté, eh bien, nous ont partagé le fait qu'ils espéraient tous avoir de nouvelles informations qui pourraient éclaircir un peu le mystère autour de cette disparition.
Pauline Sarafi en direct de Vivonne avec Inès Médé-Dognon pour BFM TV. Je vais vous présenter nos invités. Avec nous, Mélanie Bertrand, grand reporter du service PJ. Je suis obligée de commencer avec vous, Mélanie. Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans. Bonjour, bienvenue à vous. Et puis Bernard-Denis Larocque, expert judiciaire auprès de la Cour de cassation, spécialiste de la communication radioélectrique. Alors, on va commencer de manière un peu simple aujourd'hui. Les heures tournent, l'épilogue est toujours en suspens. Mélanie, j'ai l'impression qu'on est rentré désormais dans une autre chronologie, une autre temporalité.
On est rentré dans une phase plus judiciaire qu'avant. En fait, quand une personne disparaît, c'est les 48 premières heures qui sont les plus importantes et c'est là que les gendarmes ou la police, quand ils sont en zone police, mettent tous les moyens nécessaires. On met un maximum d'hommes sur le terrain, des chiens, des hélicoptères, des drones, des plongeurs, parce que on sait que si une personne est blessée quelque part ou a eu un accident, a fait un malaise, il faut aller vite pour la retrouver. Malheureusement, ça fait 3 jours maintenant que Agathe a disparu et effectivement, ce qui devait être ratissé a été largement ratissé. Hier encore, on voyait qu'il y avait une centaine d'hommes sur le terrain avec des citoyens aussi qui sont venus prêter main forte, l'armée de terre. Ça n'a rien donné. Donc maintenant, la phase judiciaire qui, elle, a commencé aussi depuis le début. Bien sûr que les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers n'attendent pas que la phase opérationnelle se termine. Dès le début, on entend les proches, on auditionne les parents, la famille, les amis, on exploite les vidéos de surveillance. Il y en a là par les chemins par lesquels elle est passée. Cette phase, elle va maintenant s'intensifier. Moins de recherches sur le terrain. On met l'accent sur les fouilles judiciaires, enfin l'exploitation des données judiciaires. Hier, le procureur disait, on a reçu une trentaine d'appels à témoins qui peut-être peuvent donner une indication importante. Il faut exploiter tout ça, recouper, voir si ça peut coller et peut-être qu'un témoignage va émerger, va être vérifié, va donner une piste sérieuse.
Oui. On a des cette histoire du portable, on sait qu'elle est partie avec son portable, le portable qui...
C'est précieux déjà qu'elle ait son portable, c'est une information pour les enquêteurs.
On ne sait pas si elle a une montre connectée en plus du portable, mais vous nous disiez l'autre jour, Bernard Denis Larocque, donc, que ce portable, pour qu'il nous dise des choses, il fallait que tout autour, on ait des éléments. Racontez-nous ça, parce que c'est passionnant, cette technologie au cœur de l'enquête, racontée par vous, expert.
Ce portable, pour moi, c'est un peu une énigme, parce que on peut localiser un portable de deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle le bornage. Votre portable est uniquement portable, il n'y a aucune application dessus, mais si vous voulez pouvoir téléphoner avec, faut qu'il se borne. Et le bornage, c'est l'indication de la borne fixe à laquelle le mobile se rattache, parce que le mobile ne communique pas directement les uns avec les autres. Or, dans cette région, il y a des bornes, en gros, tous les 4 kilomètres. Par conséquent, on ne peut définir la position de ce mobile par bornage au mieux qu'à 4 kilomètres près. Et même 4 kilomètres, on n'y arrivera pas parce qu'on n'est jamais sûr qu'il va se borner sur la borne la plus proche.
Mais 4 kilomètres, c'est beaucoup ou c'est peu selon vous
C'est beaucoup parce que le procureur a dit qu'on avait la dernière localisation de son portable, on l'avait à 250 mètres près.
Comment on fait pour savoir qu'il est à 250 mètres et pas à 4 kilomètres?
Et ben justement, j'en sais rien. Et je sais pas comment il a pu trouver ces 250 mètres. Parce que l'autre méthode pour localiser un portable, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire qu'il a à l'intérieur une app, ou plusieurs qui la géolocalisent.
App application.
Oui, par exemple, si elle prend une photo, la photo va être géotaguée. Donc, on sait exactement où la photo a été prise. Mais là, 250 mètres, au contraire, c'est pas précis du tout. La géolocalisation, on l'a à quelques mètres près.
Ça veut dire que le procureur, c'est des choses qu'on ne sait pas?
C'est mon sentiment, en tout cas.
D'accord.
Jacques Fonbonne, c'est normal de faire de la rétention d'infos sur ce genre d'enquête
c'est
de
normal.
Toute façon, et c'est précieux.
Oui, c'est la procédure inquisitoire, c'est le secret de l'enquête. Les gens qui participent directement à l'enquête, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale, sont tenus au secret de l'enquête. Mais c'est une vraie question judiciaire et juridique, parce que l'enquête doit être secrète, parce qu'effectivement, il faut permettre aux forces de police, aux gendarmes, il y a toutes les unités d'investigation de pouvoir travailler, mais en même temps, la justice doit être rendue de façon transparente. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, la phase de l'enquête est inquisitoire et secrète, et ensuite, lorsqu'il y a des parties civiles, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mis en examen, la procédure s'ouvre en quelque sorte, puisque les gens qui sont concernés par les investigations ont accès, à ce moment-là, aux pièces de l'enquête.
Mélanie, on a combien de pistes sur la table? Parce que là, le procureur reste prudent, il dit que tout reste ouvert, mais tout reste ouvert, c'est combien de pistes?
Il y a plusieurs pistes, trois pistes majoritaires. Soit on est sur une disparition volontaire, alors ça peut paraître surprenant, elle part en short et t-shirt faire un footing, mais peut-être qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, qu'elle avait planifié un départ. On sait, nous, qu'elle avait un anniversaire au moment où on se parle ce week-end, qu'elle avait prévu d'acheter des cadeaux pour une amie. Donc, a priori, on n'est pas sur quelqu'un qui décide de tout larguer, de partir, mais voilà, tout est possible. Il y a la piste, évidemment, de l'accident, de la chute. Est-ce que quelqu'un l'a bousculée en voiture? Est-ce qu'elle-même a pu faire un malaise, tomber dans un endroit totalement escarpé sur que les secouristes, que les gendarmes seraient passés à côté? Ça paraît compliqué aujourd'hui, mais on sait avec les récentes affaires criminelles que tout est possible. Et puis il y a la piste criminelle, donc, qui évidemment est celle que l'on redoute tous, d'une mauvaise rencontre, de quelqu'un qui l'embarque avec elle, qui lui fait du mal. Pour l'instant, vraiment, le parquet de Poitiers communique très peu, fait des communiqués, ne répond à aucune autre question. Et vraiment, on nous dit que toutes les hypothèses sont étudiées. Évidemment, nous, on suit ça heure après heure sur BFM TV. Ça ne fait que 3 jours. On sait que des enquêtes peuvent rentrer dans une temporalité beaucoup plus longue.
Dans une affaire comme celle-ci, Jacques Fonbonne, on recherche en fonction de la personnalité du ou de la disparue. On recherche pas de la même façon le petit Émile, Agathe,
alors, évidemment,
ou un adulte.
Évidemment.
Comment on s'adapte?
Alors, à la réflexion de ce que l'on dit, je pense qu'il y a effectivement un resserrement du dispositif, parce que je pense que les gendarmes ont purgé, on va dire, l'hypothèse la plus évidente, qui est celle d'un accident. Agathe aurait glissé, elle se serait fait mal, elle serait tombée dans un endroit qui est habituellement son parcours de sport, d'où l'intérêt d'avoir avec elle les gens qui courent.
Voilà, qui ont fait ce même parcours.
Voilà, qui ont fait ce même parcours. Et c'est évidemment la première hypothèse. Elle a glissé, elle s'est cassée une jambe, elle s'est fait mal. Et donc, on va chercher immédiatement, dans la perspective de trouver quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui va vouloir se signaler. Je suis là, je me suis fait mal, et à ce moment-là, on va le retrouver assez facilement. Ensuite, pour répondre directement à votre question, la personnalité de la personne qui est en fuite va permettre de serrer certaines
disparu,
hypothèses.
Qui est disparu, il est en fuite. Ouais,
pardon, qu'est-ce que j'ai dit?
Qui est en fuite.
Pardon, excusez-moi, qui a disparu, bien ouais. entendu. Oui, va se modifier à l'aune de sa personnalité. Mmh. On a, avec Agathe, une personne qui est en arrêt de maladie.
Fragile.
Voilà, qui est fragile psychologiquement. Donc, peut s'ouvrir une piste de volonté d'attenter elle-même, d'attenter à ses jours, mmh. mais qui, à ce moment-là, ouvre de façon extrêmement complexe les champs d'investigation. Mmh. Si l'on veut mettre fin à ses jours, par définition, on va pas se mettre sur un itinéraire où on va venir vous chercher. On n'a peut-être pas envie que vos proches, que les gens vous trouvent et vous trouvent morte. Donc on va peut-être se dissimuler dans un endroit qui va rendre les recherches mmh. extrêmement compliquées. Et puis il y a la piste criminelle évidemment, mais pour le moment on est toujours dans une enquête pour recherche des causes de la disparition, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'éléments criminels qui inciteraient le procureur de la République à continuer en crime flagrant ou à solliciter l'ouverture d'une information criminelle.
Pour remonter ses habitudes de vie, parce que là, les enquêteurs effectivement vont un peu plonger dans le passé, dans la vie quotidienne même de cette jeune femme, là encore, le téléphone est un outil précieux parce qu'il va donner des indices sur ses habitudes, son quotidien.
Ah ben, le téléphone donne des tas d'indices, mais il faut le retrouver.
On peut le lire à distance ce...
Non, on ne peut pas le lire à distance. Non. Ce qu'on peut faire sans avoir le téléphone, c'est essayer de saisir les fichiers des applications auxquelles elle a l'habitude de se connecter. Donc des fichiers de Google, des fichiers de choses comme ça. Mais non, lire le téléphone à distance, c'est impossible. Et là, depuis le temps, les batteries sont sûrement mortes maintenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est arrêté d'émettre. Ça voudrait donc dire que soit la batterie était déjà morte, soit il est tombé dans l'eau.
À quel moment, comment ça se passe? Les enquêteurs là donc recherchent elle son téléphone. Donc on fait des réquisitions auprès des opérateurs Orange, SFR, Bouygues, Free. On leur dit vous bloquez les gelées. Comment ça se passe? Parce que là on avait ce matin Frédéric qui nous expliquait au Wall, notre juriste qui nous expliquait voilà il y a cet endroit où son téléphone a borné 250 mètres. On va évidemment chercher tous les téléphones qui ont borné autour. Oui. Peut-être que si quelqu'un lui a fait du mal, il avait son téléphone sur lui. Donc on va et comment ça passe? On dit aux opérateurs vous gelez les données, vous arrêtez tout. Comment ça se passe?
Oui, on saisit les fichiers. Il y a tous les opérateurs ont un service de saisie judiciaire. C'est très facile.
Ça fait des progrès parce que je me souviens de plusieurs années, de plusieurs enquêtes où là ça prenait des mois et des mois. Je pense qu'on n'est pas sur la même temporalité.
Maintenant c'est beaucoup mieux rodé. C'est beaucoup mieux rodé parce qu'en plus c'est facturé. Alors je pense que ça les motive un peu plus.
C'est facturé cher.
D'accord. Ouais. Mais c'est un outil précieux.
Qu'est-ce
qui est facturé
chaque
les fanettes, c'est-à-dire chaque réquisition.
Fanettes, facture détaillée.
Facture détaillée.
Je ne veux pas dire que c'est la motivation première, mais c'est certainement de nature à améliorer la diligence.
On donne de l'argent à l'opérateur pour qu'il communique les informations du téléphone. De son client.
On lui achète ses informations.
Okay. Oui. Agathe a disparu jeudi. Vous pensez qu'ils savent déjà qui était sur zone à l'heure du déjeuner?
Normalement, ils ont dû saisir. Ils ont dû demander à l'opérateur la liste des téléphones qui ont borné non seulement sur la borne.
Et on l'a déjà, là, deux jours après.
Oh bon, ça, c'est assez rapide. Ça va très vite maintenant.
Oui, ça va très vite. Tout est numérisé.
Alors, ils ont la liste des 06 ou 07. Oui. Ils ont les noms. Et ils ont les adresses.
Oui.
Donc ils vont remonter,
ils peuvent croiser avec des fiches.
Mais le problème, c'est que le téléphone s'est arrêté d'émettre tout près d'une borne, justement. Ce rayon de 200 mètres, il y a une borne dedans. Les autres sont à respectivement 3,7, 4 km et 11 km. Hein, donc c'est loin, les autres. Donc est-ce que c'est un hasard? Je n'en sais rien. Mais il ne faudra pas demander uniquement les téléphones qui bornaient sur cette borne à ce moment-là, il faut aussi demander ceux qui bornaient sur les bornes voisines. Parce que quand vous êtes tout près, vraiment, de la borne, obligatoirement, vous vous raccordez à celle-là. Mais si vous vous raccordez à celle-là, ça ne veut pas dire que vous êtes tout près.
D'accord.
Vous voyez, c'est... Mais dès que vous êtes un peu plus loin, je vais dire à 500 mètres de la borne, vous pouvez très bien être raccordé à la borne qui est à 4 km.
Alors bougez pas, on va passer à Poitiers, retrouver Célia Vallée, l'une de nos envoyées spéciales pour BFM TV. Célia, c'est toute la région qui est mobilisée ce matin.
Y compris le marathon de Poitiers qui avait lieu ce matin. À Poitiers, on a une vingtaine de kilomètres de Vivonne, là où a disparu Agathe. Et ce marathon se déroulait ce matin. Et c'est là que l'organisateur a eu un mot pour elle, pour sa famille. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Nicolas de Roussy.
Avant de lancer les festivités, donc je voudrais juste avoir une petite pensée pour Agathe et les recherches qui sont en cours.
Et en tout cas, nous souhaitons que l'issue soit heureuse.
Une pensée émue pour Agathe, on se sent concerné.
Étude qui grandit dans cette région parce que les questions au fil des heures sont multiples.
Oui, tout à fait. On a parlé avec des coureuses ce matin. Elles ont toutes une pensée émue pour Agathe et voilà ce qu'elles nous disent. On se sent concernée. Elle aurait peut-être aimé être là ce matin au marathon. Certaines d'entre elles pensent même à changer leurs habitudes sportives, par exemple, en partant accompagnées lorsqu'elles vont courir. En tout cas, la disparition d'Agathe, elle est dans tous les esprits depuis ce matin, pour les personnes de la région comme pour les personnes venues d'ailleurs en France à l'occasion du marathon ce matin.
Merci beaucoup Célia Vallée avec Nicolas de Roussy en direct de Poitiers. Il y a aussi une dizaine d'auditions qui ont été menées par les enquêteurs et vous le disiez Mélanie, une trentaine d'appels, une trentaine de personnes ciblées après ces appels à témoins. Qu'est-ce que ça peut donner ça?
Oui, l'appel à témoins, on l'a diffusé nous sur BFM TV et d'autres médias également dès vendredi en fait quand le parquet a donné son feu vert, on l'a diffusé tout de suite. C'était un appel à témoins qui était très complet. Oui. Il y a la photo d'Agathe, son nom, son prénom, une description physique, 1m65, corpulence très mince, sa tenue de sportive. Et ça, en vrai, on a posé la question à des gendarmes. Je leur ai demandé, est-ce qu'on peut diffuser le nom de famille? Et au contraire, on nous a incité parce qu'on nous a dit, ça peut provoquer un déclic. Quelqu'un peut se dire, cette jeune femme, je la connais, je regarde dans mon téléphone, oui, je lui ai parlé il y a quelques jours, elle m'a dit ça. Ça peut donner une indication. Et puis, il y a la description physique. Peut-être qu'un voisin, qu'un proche l'a vu passer dans la rue. Peut-être qu'elle n'était pas seule quand elle est partie courir. Peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière elle. C'est autant d'éléments qui sont là, évidemment, pour provoquer, et c'est le nom, un appel à témoins. Oui. Ils ont reçu une trentaine de coups de téléphone. Peut-être des gens, on ne le sait pas, se sont présentés à la gendarmerie pour apporter des témoignages. Tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut vérifier. Il y a des témoins qui sont très importants, d'autres qui se trompent de bonne foi en étant sûr de l'avoir vu passer à tel moment, tel jour, à telle heure. C'est totalement faux. On l'a vu dans l'affaire de la disparition de Lina. Ce monsieur d'un certain âge qui était certain de l'avoir vu passer dans une voiture, faire un signe de main. Malheureusement, il s'est trompé de journée, mais ça a pris du temps aux enquêteurs de creuser ce témoignage.
Mélanie, les gendarmes sont allés au domicile d'Agathe, oui, à Poitiers. Elle loue un studio à Poitiers. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont allés chercher?
Oui, parce
chez
que
elle.
On est dans le cadre d'une disparition en forêt. Les chiens de la gendarmerie, les chiens qui peuvent pister sa trace, ont besoin d'avoir une odeur.
Des vêtements.
C'est ça qu'ils sont allés chercher, notamment au domicile d'Agathe à Poitiers, des vêtements qui ont la trace olfactive, l'odeur de la jeune fille. Ils ont fait sentir aux chiens et ensuite les chiens les ont peut-être guidés dans la forêt. Ça on l'ignore. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et ils sont allés chercher au domicile directement d'Agathe.
Et ça, c'est une odeur, Jacques Fonbonne, qui va être gardée dans des bocaux au cas où, pour la suite, comment est-ce qu'on continue à garder ces éléments?
Alors, non, parce que éventuellement, on va rechercher un second vêtement. En fait, le maître de chien prend un vêtement dont on est certain qu'il est appartenu à la personne disparue. C'est assez amusant à voir. Il place une chaussure ou un sous-vêtement, par exemple, à l'intérieur d'un sac en plastique. Il enferme le museau du chien quelques secondes, évidemment, dans le sac en plastique, de façon à ce que le chien prenne une grande inspiration et s'imprègne de l'odeur. Il enlève le sac, va chercher. Et le chien part comme une balle, avec des résultats qui sont extraordinaires. Il y a deux types de chiens qui sont principalement utilisés. Il y a le Saint-Hubert et le Malinois.
Vous savez, le Saint-Hubert. C'est la SPA qui parle.
Absolument. Le Saint-Hubert, c'est plutôt, vous voyez, c'est le chien de Donald et de Dingo. C'est un très grand chien. Ils ont un flair extraordinaire, qui surpasse celui de toutes les autres espèces canines. Mais il est lourd, donc il est fatigué relativement vite, et il est assez difficile à éduquer. Il a son caractère. Le Malinois a des performances qui sont un petit peu moins évidentes, mais on est dans des conditions climatiques qui sont plutôt bonnes. Mm-hmm. Il est très nerveux, très endurant, et donc on va souvent préférer le Malinois.
Christian Flèche nous racontait tout à l'heure hors studio que parfois, on utilisait l'odorologie quand quelqu'un dans une voiture disait « je ne conduisais pas », on parle d'affaires criminelles, « je ne conduisais pas la voiture, je n'étais pas dans la voiture ». On fait sentir le type au chien, enfin le suspect au chien, on le lâche dans la voiture et on voit s'il va sentir du côté du siège conducteur. C'est quand même assez extraordinaire.
Les chiens sont capables d'emmagasiner 11 odeurs. Oui.
11 odeurs différentes.
Voilà, et de rechercher en quelque sorte 11 personnes différentes.
Mais une odeur, ça se perd au bout de combien de temps?
Alors, ça dépend. D'abord, si les conditions météorologiques sont très sèches, L'odeur ne se diffuse pas. Ensuite, s'il y a un orage, l'affaire du petit là, Émile, par exemple.
Oui, mais là, il y a eu de la pluie, par exemple.
Alors,
entre
y a
hier
la pluie.
Et aujourd'hui.
La pluie va évidemment disperser énormément les molécules que le chien va chercher. Idéalement, c'est un temps comme aujourd'hui sur Paris, c'est-à-dire humide, gris, avec une humidité forte dans l'air, mais sans pluie.
Est-ce qu'on peut imaginer que les gendarmes soient au domicile d'Agathe, aller chercher aussi autre chose, par exemple.
Des supports numériques.
Une brosse
peut-être.
À dents, quelque chose qui aurait pu. Non, une brosse à dents, quelque chose qui pourrait donner son ADN si on retrouvait un jour. Pardon,
je vais
très loin.
Oui.
Je suis dans un scénario de si un jour on retrouvait un corps ou.
Ils ont saisi des objets aussi. Sans qu'on ait plus de précision, mais on peut imaginer qu'ils sont allés chercher, bien sûr, de l'ADN notamment, et peut-être, disait Pauline, des supports numériques pour essayer d'investiguer tout son passé.
Parce que Mélanie, si elle n'est pas fichée, au FNAEG, elle l'était pas, on imagine, on n'a pas son ADN.
Non, mais on l'a forcément avec une brosse à dents, avec une brosse à cheveux, avec des éléments qui contiennent de l'ADN, et puis tous les éléments de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les éléments qui pourraient permettre de reconstituer un passé immédiat, une embrouille, un rendez-vous. Une mauvaise rencontre à la suite d'un rendez-vous pris sur un site ou simplement un échange téléphonique. Et puis, les mails, les choses qu'elle peut envoyer qui pourraient justifier soit un passage à l'acte, soit une fugue, soit quelque chose qui déjà commencerait à orienter les enquêteurs.
La suite, Mélanie, on le rappelle, c'est une autre temporalité, peut-être un peu plus étirée.
Oui, c'est les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers qui sont en train d'exploiter depuis le début, mais a fortiori d'autant plus aujourd'hui, maintenant que les recherches sur le terrain a priori n'ont rien donné, exploitent les différentes hypothèses, continuent de recevoir sans doute des appels de citoyens qui peut-être ont un élément important, tout ça prend du temps. S'il y a un élément important, on reçoit la personne, on va l'auditionner le temps qu'il faut pour ensuite vérifier surtout son témoignage sur le terrain. Tout ça prend un temps, on est dans une phase nouvelle. On aimerait évidemment retrouver au plus vite cette jeune femme, ça peut durer malheureusement un certain temps.
Merci beaucoup, merci à tous d'avoir partagé ce plateau avec nous.